Bon, alors, François, vous en êtes où, là?
J'en suis où, J'en suis en plein dans l'automne 61.
Ah, l'automne 61, hein. Sale période, hein.
Je comprends pas. On dirait que ça a jamais existé. À l'école, on nous en parle pratiquement jamais. Les médias n'en parlent jamais. Et les politiques disent n'importe quoi sur le sujet. Non mais mon père, hein, Patrick, mon propre père, ne m'a jamais parlé de la mort de son père. Moi, je me suis pris pour Nestor Burma. Résultat, je me retrouve avec des rapports de police de 200 pages à me fader et une carte de fidélité à la BNF. Non mais j'ai tout lu, Patrick, tout, hein. Je me suis même fait des fiches.
Répète après moi.
Non mais des fiches, comme pour le bac.
FLN, FVMA, Maurice Papon.
Et j'arrive même pas à savoir en quoi consistait le travail de mon grand-père.
Essaye encore.
Et je suis même pas très sûr d'avoir envie de tout savoir, à vrai dire. J'en peux plus, en fait, de ce travail de mémoire. Et moi aussi, j'aimerais m'asseoir au bord d'un lac et pêcher la truite, tiens, pour tout oublier.
Bon. Ça va mieux ?
Un peu d'histoire avec un grand H n'est jamais inutile en termes d'identité avec un grand I. Et si nous avons dit hier que la proposition identitaire faite par de nombreux politiques était une forme de non-réponse politique au vide laissé par la promesse républicaine non tenue, parfois la question identitaire sincèrement posée, mue par un désir de vérité, peut être un bon point de départ. Dans sa série radiophonique de Guerre en fils, dont on vient d'entendre un extrait, François Perrache s'interroge sur son identité en faisant comme souvent le détour par deux générations en arrière. Son grand-père est mort à Paris pendant la guerre d'Algérie et le silence fait sur cette mort comme sur le reste de la guerre se trouve comme dérangé par les coups de mitraillette le soir du 13 novembre 2015 en plein Paris. Ce réveil douloureux lui fait reprendre une ancienne enquête. Cela donne 6 épisodes remarquables de sensibilité, de précision, de réalisation sonore et de pédagogie à écouter sur Arte Radio. L'identité française s'en trouve autant éclairée que celle du grand-père et de l'auteur, c'est-à-dire rendue à leur complexité. Il est 14h passées de 2 minutes, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Isabelle Lemignon est généalogiste successorale. Elle et ses collègues cherchent l'identité des héritiers lors du partage d'héritage quand ceux-ci ne sont pas connus. Un jour qu'ils s'occupent de l'héritage d'une femme décédée plutôt jeune et sans enfant, ils doivent remonter jusqu'à sa mère, légitime héritière dans ce cas. Mère qui avait caché l'existence de cette fille aux personnes qui ont ensuite partagé sa vie, autres enfants et compagnons.
On ne sait pas si elle a parlé à son époux de cette première enfant, parlé à ses enfants, donc il s'agit là d'être extrêmement prudent, d'essayer de faire preuve d'un petit peu de tact, puisqu'on n'est pas non plus là, le généalogiste successoral, pour faire exploser des familles, pour bouleverser les équilibres qui sont en place.
Une partie de la vérité dans la salle à manger vers 14h50. C'est le deuxième temps de ce chantier thématique consacré à l'identité. Faut-il vraiment choisir entre le jazz et la révolution? Faut-il choisir entre l'Albanie, la France et la Mauritanie? Est-ce si mal d'être bâtard? Comment, dans le monde qui va, ne pas répondre à l'injonction d'appartenir? D'abord en décidant de n'appartenir à rien, et puis peut-être en décidant, non sans effort, de s'appartenir à soi. La tâche n'est pas mince, peut-être rendue plus difficile encore quand son identité est réduite pour le pays dans lequel on vit, à l'arabe dans le miroir. Karim Misquet, vous publiez à quelques mois d'intervalle, aux éditions Viviam Ami, le livre N'appartenir et le roman graphique S'appartenir, dont les dessins pour ce dernier sont signés Antoine Silvestri. Bonjour à vous et merci d'être là.
Bonjour. Au Moyen-Âge, pour qu'il y ait bâtard, il faut qu'il y ait naturellement mariage chrétien. Loyal mariage, loyal matrimoine, comme disaient les textes du temps. Et c'est dans la mesure où il y a cette idée d'un mariage régulier, à la face de l'Église, reconnu, établi, un mariage monogame, un mariage indissoluble, que tous ceux qui ne sont pas nés à l'intérieur de ce mariage sont considérés comme des bâtards. Et pour l'Église, le bâtard, celui qui est de naissance illégitime, est considéré comme un irrégulier. Et du même coup, il ne peut pas accéder aux ordres sacrés. Il ne peut pas devenir clerc, il ne peut pas devenir prêtre, il ne peut pas devenir, a fortiori, évêque.
Alors, vous n'aviez pas complètement l'intention de devenir évêque, Karim Misquet, mais on fait un petit détour par le Moyen-Âge dans la voix de Philippe Contamine qui évoque l'idée dans cette archive de 1980 de bâtard et du statut du bâtard dans cette société-là. Bâtard, c'est le mot qui ouvre la plaie et c'est dans cette plaie que vous écrivez ou à partir de cette plaie que vous écrivez ces deux livres que j'ai cités. Il est prononcé par qui ?
Il est prononcé par mon grand-père, donc à l'époque j'ai 9 ans et demi, mon grand-père a une maladie du cerveau, une artérosclérose cérébrale, donc ses fonctions cognitives commencent à s'effilocher, et puis il y a une vérité qui sort, donc il est très en colère ce jour-là, il pense qu'on lui a volé, alors qu'il n'y a que la famille qui est autour, qu'on lui a volé son portefeuille, et moi j'essaye de le calmer, et à ce moment-là il me repousse en me traitant de bâtard, ce qui fait sortir finalement une vérité cachée dans la famille, celle qui n'était pas cachée, puisque ma mère s'était mariée pour le coup, évidemment pas chrétiennement puisque mon père était musulman, mais marié civilement et de manière tout à fait publique. Mais en fait, ce mariage, il n'était jamais réellement passé, puisque mon grand-père donc était français, blond aux yeux bleus, moitié breton, moitié vendéen. Ma grand-mère, elle, française aussi, venant des Pyrénées, et leur fille, ma mère donc, qui était aussi très blanche et avec les yeux bleus, avait épousé un arabe au teint plutôt foncé. Et en fait, personne n'avait jamais osé rien dire et c'est sorti ce jour-là dans cet incident.
Alors, est-ce que vous diriez que c'est un incident qui, finalement, est un incident heureux, est un incident fertile ?
Alors, heureux sur le coup, je pourrais pas dire ça, mais fertile, certainement, oui. Je pense que pour moi, en tout cas rétrospectivement, ça a été utile qu'à un moment, il y ait quelqu'un finalement qui crache le morceau. Et c'était réellement le cas, de manière violente, parce qu'en fait, les vérités tuent quand elles sortent souvent de cette manière-là.
Ça veut dire quoi à 9 ans, puisque c'est une réalité qui va évoluer dans sa possible compréhension, ce mot-là de bâtard, ça veut dire quoi pour l'enfant de 9 ans ?
C'est une bonne question, je me suis pas complètement... C'est marrant parce que je l'ai écrit en essayant de travailler sur la violence que c'était de recevoir ce mot-là, mais sans expliciter exactement la compréhension que j'en avais. Mais je pense qu'à 9 ans, quand même, je savais qu'un bâtard était un enfant illégitime, un enfant hors mariage, et que surtout, c'était extrêmement péjoratif comme terme.
Alors forcément, puisque en fait vous n'êtes pas du tout illégitime, en tout cas au regard de cette fameuse loi du mariage et de la définition littérale qu'est un enfant de bâtard, ça veut dire qu'il y a autre chose qui est illégitime dans cette union. Petit à petit, vous comprenez quoi ? Qu'est-ce qui est illégitime dans l'union de vos deux parents ?
Ben, ce qui est illégitime dans l'union de mes deux parents, c'est la question de la race, en fait, hein, qui est une chose dont en France, en général, on ne parle pas, puisqu'on fait comme si la République était aveugle à ce genre de différence. Mais en fait, les gens, eux, n'y sont pas aveugles.
Sujet de l'émission d'hier.
Voilà. Les gens, eux les perçoivent bel et bien. Ils voient bien que quand quelqu'un est d'une couleur différente, ça fait une différence. Et comme là, en l'occurrence, on est dans un contexte post-colonial, immédiatement post-colonial. Moi, je suis né en 64, donc 2 ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui était évoquée dans cet extrait de
Guerre en Fils.
Voilà, d'Arte Radio, et donc 3 ans après la nuit du 17 octobre 61. Donc c'est une période qui est quand même encore marquée par cette violence et qui est marquée par la difficulté qu'a la société française à accepter la fin d'une supériorité par essence sur les peuples qui ont été soumis. Et je pense que moi, je me situe justement à cet endroit-là, en fait, à l'endroit d'une contradiction fondamentale, qui est que maintenant, on est censé, tout le monde est censé être égal, on est tous censés être égaux dans cette République, voire même dans cette humanité. Hein. La France se veut très universaliste et humaniste, la Déclaration des droits de l'homme, on s'en vante, etc. Mais qu'en fait, dans la réalité, il y a quelque chose qui s'est appelé la colonisation et qui a été fondée sur une hiérarchie des races, une hiérarchie des couleurs de peau, une hiérarchie des religions, des systèmes de pensée, et que là, pour le coup, ça coince.
Alors, évidemment, avant que ce « ça coince » ou cette friction-là ne devienne politique dans, dans votre prise de conscience, elle est intime, elle évolue à quelle vitesse ? Comment est-ce que, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, vous faites vôtre cette opposition et cette friction ?
Ben avec beaucoup de friction aussi à l'intérieur de moi-même, parce que c'est pas facile à accepter, parce que j'ai pas du tout envie comme je l'écris, hein, d'être l'arabe dans le miroir. Enfin, je veux dire, il faut se replacer, enfin, pour plein de raisons. Déjà, la France des années 70 n'est pas, on pourrait dire, encore moins arab friendly, encore moins favorable aux arabes que celle d'aujourd'hui. parce que bah justement on sort de la guerre d'Algérie et que c'est un trauma qui concerne finalement toutes les parties de la société française. Donc moi j'ai pas envie d'être cet autre là. En plus, effectivement, mon père en l'occurrence il est mauritanien, même pas algérien, donc de toute façon c'est une erreur de casting sur toute la ligne, mais les gens me mettent à cette place là, le regard de l'autre me met à cette place là parce que bah l'arabe c'est l'algérien, c'est le Fellaga, le Fellouze, le Krouille, le Biko, etc. Donc pendant longtemps, même si évidemment je l'ai vécu cet épisode avec mon grand-père et que je ne l'ai pas oublié, je l'ai quand même vraiment mis de côté, je l'ai rangé dans un coin et je n'en faisais rien en fait. Et j'avais du mal, voilà, à voir cette image de moi-même que me renvoyait le miroir, puisque physiquement, effectivement, j'étais pas vraiment un Français blond aux yeux bleus comme ma mère. Et puis après ça a été assez compliqué, c'est-à-dire que ma mère elle était très engagée politiquement, bon d'abord il y a l'Albanie, ça c'est une chose, marxisme-léninisme, etc., mais il y a aussi de manière générale le tiers-monde, ce qu'on appelait tiers-mondiste à l'époque, gauchiste et tiers-mondiste, donc d'un point de vue politique il y avait quelque chose qui était clair, c'est-à-dire qu'on était du côté des gens à qui je ressemblais physiquement. Mais en même temps, ça correspondait pas à la réalité que je vivais moi au quotidien. Mon père n'était pas là. Je grandissais dans la famille de ma mère, qui était une famille blanche, certes de gauche et ouverte, avec les limites qu'on voit avec cet incident du bâtard, mais quand même. Je pense que voilà, j'arrivais pas en fait à intégrer intimement cette part de mes origines. D'autant plus que je ne pouvais pas aller en Mauritanie puisque mon père était exilé politique. Et donc après, ça commence à changer quand j'y vais pour la première fois à l'âge de 15 ans. Mais avant, j'essaye vraiment d'être un petit Parisien comme les autres. Qui découvre petit à petit le rock'n'roll, les filles, les drogues, la musique punk, des choses. C'était ça le genre de choses qui m'intéressait.
Et donc quand ça tire, quand le miroir vous est brandi et que en même temps vous ne vous y reconnaissez pas, vous vous rendez compte que c'est aussi très compliqué de ne pas s'y reconnaître. Quand ça tire, vous attendez que ça passe, quoi.
Voilà, c'est ça. Je pense que j'ai dû. C'était pas forcément toujours marrant, mais globalement, j'attendais que ça passe. J'avais de la chance. J'avais quand même pas mal de bons amis. Enfin, j'avais une vie sociale, si l'on peut dire, pour cet âge-là, mais qui était quand même assez remplie. Donc, j'avais beaucoup d'occasions, disons, de m'oublier en partie, et de prendre le côté qui pouvait être le côté un peu sexy, un peu glamour. Bon, mon père était une sorte de révolutionnaire professionnel. Voilà, il y avait le après il est devenu un des membres importants du Front Polisario, donc qui se battait contre le Maroc pour l'indépendance du Sahara occidental. Il y avait ce côté-là, c'était dans l'air du temps là aussi, les années 70, c'était juste avant la révolution conservatrice de la fin des années 70 et des années 80, c'était encore in d'être du côté des peuples en lutte. Donc j'essayais de récupérer quand même ce côté-là, mais sans du tout m'intéresser à ce que c'était que d'être arabe, d'être musulman, et ce genre de choses. Ça viendra bien plus tard.
Puis vous faites des films, puis vous écrivez, puis vous faites d'autres films, et puis on vous en propose un projet, Mission Impossible.
J'étais décidé. Aucun dieu ne me détournerait de la mission que l'on avait eu l'imprudence de me confier et que j'investissais ainsi. Je serais le grain de sable dans l'engrenage identitaire. Celui qui empêcherait les juifs, les muses et autres de laisser leur appartenance continuer de se substituer à leur être. Le mec assez dingue pour penser que sa colère seule suffirait à tout foutre en l'air. Les identités, la haine, l'amour frelaté pour celui dont tu crois qu'il te ressemble. J'avais beau savoir qu'on ne change pas le monde avec un film, j'adorais l'idée d'avoir à ma disposition 2 millions d'euros et 4 heures d'antenne pour tout déconstruire. Après mon passage, je rêvais de laisser les spectateurs en pièces détachées, obligés de s'inventer un nouveau schéma d'assemblage. Je rêvais, oui, et rien de tel ne se produirait. Mais un film, qu'est-ce d'autre que le rêve de partager un rêve ?
C'est ici, dans la région montagneuse du Hedjaz, à l'ouest de l'Arabie, que débute l'histoire commune des musulmans et des juifs. là se situe la Mecque. En ce début du 7e siècle, c'est une ville sacrée bâtie autour du sanctuaire de la Kaaba. La majorité des Arabes sont polythéistes. Ils effectuent souvent des offrandes à leur divinité. Mais il y a aussi des Juifs et des chrétiens. C'est à Médine, à 400 km au nord de la Mecque, que vivent la plupart des Juifs du Hedjaz. Certains d'entre eux descendent des Hébreux ayant fui la Palestine après la destruction du Temple de Jérusalem. D'autres sont des Arabes convertis, car les conversions au judaïsme sont courantes à cette époque. Au début du 7e siècle, les Juifs de Médine font partie intégrante de la société arabe.
Je disais documentaire Mission Impossible et on vient d'entendre un extrait, on va en parler, de cette série de 4 documentaires juste avant dans la voix de Romain de Becdelièvre. C'était un extrait de ces deux textes qui sont finalement assez proches, pour ne pas dire carrément semblables, N'appartenir et S'appartenir, où vous êtes face à votre ordinateur et vous prenez cette proposition de réaliser un documentaire sur la relation entre les Juifs et les musulmans depuis le Coran jusqu'à aujourd'hui à bras-le-corps et comme une mission. Alors on va être pas très très sage avec la chronologie, puisque là on arrive quasiment dans les années 2000, on reviendra à votre adolescence et à votre enfance, Karim Misqué. Mais pourquoi est-ce que sur le plan de l'identité, la réalisation et l'écriture de ces documentaires est un moment important ?
C'est un moment important parce que on peut pas trouver beaucoup plus d'identités qui s'affrontent à ce point-là aujourd'hui que les Juifs et les musulmans. Enfin, c'est même un peu la tarte à la crème, quoi. C'est si on veut parler de deux religions, deux appartenances comme ça qui vraiment ont un compte à régler, c'est celle-là. Donc pour moi, il y avait une espèce de défi. Après, c'était aussi un défi personnel puisque bon, de par mon père, j'étais rattaché à l'une de ces deux identités, c'est-à-dire les musulmans. En même temps, ayant grandi dans le centre de Paris, j'avais toujours eu aussi pas mal d'amis juifs et il y avait toujours quelque chose qui, j'en parle dans Appartenir, qui m'avait rapproché d'eux dans le sens où ils n'étaient pas, il y avait ce côté un petit peu vilain petit canard qu'on avait en commun, c'est-à-dire qu'on n'était pas comme la population majoritaire. Et pour moi, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'ils avaient d'une certaine manière un petit peu le mode d'emploi, puisque c'était une minorité déjà très ancienne, donc ils savaient un peu comment faire, comment ne pas être comme les autres, quoi. Et que y a un chantage. Je pense que si j'ai écrit ce livre, c'est aussi c'est pour parler de la difficulté d'être assigné à une identité, mais aussi des mécanismes qui font qu'on y est assigné. Et donc le mécanisme du chantage identitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les chantages identitaires qui peuvent exister, les plus massifs et les plus importants sont ceux sans doute qui concernent les Juifs et les musulmans par rapport à Israël et par rapport à la Palestine. C'est-à-dire que si on est juif, on est tenu d'être pro-israélien, et si on est musulman, on est tenu d'être pro-palestinien. Comment dirais-je, au-delà même de la justesse des idées pour les uns et pour les autres, c'est vraiment quelque chose qui est lié à votre être. Et ce qui, pour moi, est une sorte de défaite et une sorte de... Enfin, c'est un peu problématique, peut-être parce que j'ai grandi justement dans une autre époque, les années 70, où il y avait d'autres types d'idées auxquelles on se rattachait, qui n'étaient pas... On ne pensait pas nécessairement à partir de son identité.
Et alors, qu'est-ce que vous découvrez, justement, j'allais dire décrivez, mais parce que c'est vraiment dans les deux sens, en fait, que ça se joue.
Ce que j'ai découvert, notamment dans les parties les plus anciennes, c'était à quel point les deux identités, les deux religions. Quand je dis les deux, en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisque évidemment chaque identité est multiple. Il y a plein de manières d'être musulman, il y a plein de manières d'être juif. Bien sûr que ce soit, et plein de manières aussi de vouloir appartenir ou pas appartenir à ces identités. Mais en tout cas, il y a un lien très fort qui se fait dans la construction même des religions. C'est-à-dire que l'islam des origines est très inspiré du judaïsme. Dans le film, on raconte comment avant on priait vers Jérusalem et après les musulmans, primitifs priaient vers Jérusalem, et puis petit à petit, quand ils se sont détachés parce qu'il y a eu des conflits avec les tribus juives qu'il y avait en Arabie, ils ont commencé à prier vers la Mecque, ils jeûnaient pour Kippour, après ils se sont mis à jeûner pour le Ramadan, parce qu'en fait il fallait que cette nouvelle religion qui naissait prenne ses propres marques et existe par elle-même. Mais donc on voit bien qu'il y a une sorte d'ADN commun. On le sait avec le christianisme, parce que dans le christianisme, finalement les chrétiens, même si les catholiques sont souvent un peu moins à l'aise avec l'Ancien Testament que les protestants, mais quand même l'Ancien Testament reste dans le corpus, alors que dans l'islam c'est un peu différent parce que tout est intégré dans le Coran. Il y a beaucoup de références évidemment.
Et une reconnaissance des prophètes précédents.
Voilà, c'est ça. Donc ça c'est une chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que après ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire que le judaïsme ensuite est influencé en retour par l'islam, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Saadia Gaon, qui était le plus grand savant juif de son temps à Bagdad, qui a écrit un commentaire, qui a traduit la Torah en arabe et qui en a écrit un commentaire en arabe, et qui en fait a posé les bases d'une réforme du Talmud à partir en utilisant en fait les outils de ce qu'on appelle le kalam, c'est-à-dire la théologie musulmane inspirée de la philosophie notamment aristotélicienne, la philosophie grecque. Donc en fait il y a une modernisation du judaïsme qui se fait en utilisant les outils développés par l'islam. Donc on voit bien qu'en fait, ces deux religions, cultures, etc., ou ces multiplicités de religions et de cultures sont totalement inséparables. Et c'est ce qui fait évidemment la violence du conflit. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de faire ce film et de le traiter. C'est pour ça que pour moi, c'était très important de le traiter de manière chronologique, parce que c'était important il fallait absolument comprendre que d'abord, c'est une construction commune, non exemple de conflit, bien sûr, hein, ça n'existe pas, une relation entre deux groupes sans conflit, mais il n'y a pas du tout l'idée que l'autre est un ennemi par nature. Et ça, en revanche, c'est vraiment dans l'histoire récente que ça arrive. Donc pour moi, ça, peut-être je le savais comme ça, vaguement, intellectuellement, mais le fait de plonger dans cette histoire, ça m'a fait découvrir à quel point cette idée était juste.
Et est-ce qu'il y a une différence entre justement la personne que vous êtes intellectuellement et intimement après avoir fait ce travail en profondeur, puisque c'est vraiment un travail que vous faites en compagnie des historiens et ça se voit dans vos documentaires, et la personne qu'on entendait tout à l'heure dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre devant son ordinateur en disant « Ok, je serai le mec qui va enfin libérer tout le monde de son appartenance, je vais être le grain de sable ». Est-ce que vous revenez un petit peu de ce projet qui est « Je vais libérer chacun de cette injonction d'appartenir »
Non, j'en reviens pas, mais je le traite d'une autre manière, puisque j'écris « N'appartenir » après avoir fait le film. Donc, c'est-à-dire que ce sont des objets différents qui, évidemment, obéissent à des raisons différentes. Donc, je vais pas... je veux dire... Il y a évidemment cette... J'essaie d'expliquer ça plus clairement. Il y a une colère en moi au départ contre ces chantages identitaires dont je parlais tout à l'heure. Et ça me donne l'énergie qu'il faut, parce qu'il faut quand même de l'énergie pour faire un film comme ça. Ça m'a pris 3 ans de ma vie à temps plein. Hein. Et avec toute une équipe, j'aurais pas pu faire ça tout seul. J'ai des co-auteurs et aussi un réalisateur de l'animation, Jean-Jacques Prunas, qui a fait un travail formidable. Mais... voilà, il fallait que ça parte de quelque part. Il fallait que j'aie ce désir intime, effectivement, de leur régler leur compte à ces identités, tout en n'étant pas naïf et en sachant très bien que ça n'aboutirait pas. Et que, en plus, je vais pas utiliser l'argent public, comme je dis là, les 2 millions d'euros, pour régler mes comptes personnels. De toute façon, on me laisserait pas faire. Et heureusement. Mais, malgré tout, ce désir-là, il est là. Et il est quelque part dans le film. Et il y a des moments, notamment dans la conclusion du film, où je règle explicitement son compte à cette ivresse de l'identité, qui pour moi est une chose néfaste, même si elle est absolument inévitable. Mais je pense que voilà, il faut néanmoins, en tout cas, se poser contre. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors après, je la reprends de manière beaucoup plus personnelle et j'écris le livre où là, en l'occurrence, voilà, je suis pas payé pour le faire, donc j'écris réellement ce que je veux et ce que je pense de manière beaucoup plus directe.
En introduction, je parlais du travail de François Perrache en disant qu'un peu d'histoire avec un grand H ne faisait pas de mal à la question identitaire avec des petits ou des grands I. C'est aussi la proposition que vous faites avec ce film-là, c'est-à-dire un peu d'histoire, beaucoup de connaissances, peut-être libère de l'ivresse identitaire. Est-ce que vous diriez que dans cette ivresse identitaire, dans cette injonction d'appartenir, il y a beaucoup de non-savoir ?
Oui, il y a beaucoup de non-savoir et beaucoup de manipulation perverse du savoir par ceux qui savent. Voilà. Et alors là, c'est absolument réparti de
également.
Également, tout le monde est pareil de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les gens qui connaissent l'histoire en font délibérément une interprétation tronquée, biaisée. Je veux dire, on est tous enclins à le faire, évidemment. Chacun a ses opinions. On a tous une lecture particulière sur l'histoire, c'est normal. Mais là où ça devient biaisé, c'est quand on met un peu certains faits sous le tapis, quand on met vraiment ce qui dérange, quand on évacue trop ce qui dérange pour pouvoir présenter une thèse. Et je pense que voilà, dans ce cas-là, effectivement, de part et d'autre, il y a beaucoup d'historiens, on va dire, qui pour moi sont pas les meilleurs ou pas nécessairement les plus honnêtes, qui font ce travail-là de manipulation de l'histoire. Et donc je pense que c'est très important, et pour ça je suis très heureux d'avoir pu faire ce film, très heureux que Carte et que voilà l'argent public français ou franco-allemand ait pu être investi dans cette œuvre, je dirais, de salubrité publique, parce que j'ai évidemment pas la prétention de changer le point de vue, l'opinion des gens, mais en tout cas de faire qu'ils puissent plus évacuer les faits qui les dérangent trop, c'est-à-dire qu'on a le droit de penser ce qu'on veut sur un conflit ou un autre, sur une situation, mais en même temps il faut le faire quand même à partir d'un certain nombre de données aussi objectives, on va dire, que possible.
Bon, bye bye l'argent public franco-allemand. On revient donc à un projet plus intime et plus personnel, et c'est un projet qui, par surprise, nous emmène en Albanie.
Moi, j'ai aimé ça. J'acceptais ça. J'assumais ça. C'est beaucoup mieux être arrogant devant le public, arrogant, mégalomane, etc., que être modeste. Modeste, entre guillemets, c'est-à-dire vous étiez quelque chose sans dignité. C'est-à-dire, j'ai cité Lénine qui l'a dit, là-bas les grands écrivains, là-bas les écrivains, les vrais. Alors, c'est-à-dire, le régime n'aimait pas ça. L'écrivain, c'était une sorte de rival de régime, une autorité rivale, une autorité alternative. Et il ne supportait pas ça. Dans un pays communiste, toutes les autorités, c'est l'autorité du parti. On ne peut pas avoir une autorité de la littérature séparée de l'autorité du parti. On ne peut pas non plus avoir les écrivains qui rivalisaient avec les dirigeants. Et moi, j'étais plus connu que beaucoup de dirigeants en Albanie. Et ça a été dangereux.
Il commence par parler de modestie, puis il finit par dire, Ismaïl Kadaré, qu'il était plus connu que les dirigeants. On a exhumé cette archive de mars 2013, on le rencontre au Salon du Livre, ce qui explique la rumeur derrière. Ce grand auteur que vous aussi, vous rencontrez, on l'apprend dans sa partenaire, Karim Misquet. Et c'est une belle rencontre, peut-être parce que c'est une rencontre, je sais pas, d'enfance ou de préadolescence. Et il me semble qu'elle signe quelque chose sur ce qui s'ouvre pour vous comme possibilité de vous appartenir, de choisir votre propre route. Pourquoi ?
Oui, effectivement, c'est très juste parce que je vais en Albanie donc avec ma mère, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui était très militante, tiers-mondiste et gauchiste. Donc là, on est sur le côté gauchiste, marxiste-léniniste. Moi, à partir de l'âge de 7-8 ans, j'entendais toujours ce terme, marxiste-léniniste. Donc nous, on était marxiste-léniniste. Et par exemple, ça voulait dire qu'on n'aimait pas les trotskistes. Enfin, bon, il y avait plein de petites
guerres. Donc un autre bout d'identité. Tout à l'heure, vous disiez, je prenais un peu du côté de mon père, star révolutionnaire mauritanienne. Vous preniez un petit peu du côté marxiste-léniniste et vous alliez en Albanie.
Voilà. Là, je prenais plus qu'un peu parce que je grandissais dedans, parce que mon père, il était pas là. Donc là, du coup, je grappillais ce que je pouvais du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, c'était réellement la réalité quotidienne dans laquelle je grandissais, bien que grandissant à Paris dans le 5e arrondissement, c'était un peu étrange parfois. Et donc, ma mère décide d'écrire un livre sur les femmes albanaises. Après la séparation avec mon père, donc elle était assez en colère contre les hommes en général, donc elle était féministe aussi. Le livre est sorti ensuite aux éditions des femmes, donc il y avait tous ces ismes qui se mélangeaient. Pour écrire ce livre, elle va en Albanie une dizaine de fois, et deux fois je l'accompagne pendant des vacances scolaires, donc les vacances d'été, pendant 3 semaines. À l'âge de 8 ans et à l'âge de 9 ans, je me retrouve à Tirana, dans un monde qui est vraiment extrêmement étrange pour le coup, qui a absolument rien à voir avec tout ce que je peux connaître ou comprendre, un monde où un peu à l'envers, où tout d'un coup des choses qui sont négatives chez moi à Paris, par exemple la délation, je sais pas, on n'est pas encouragé, c'est mal vu de dénoncer un copain qui a fait une bêtise. Et là, tout d'un coup, j'arrive en Albanie et je vois que ils punaisent sur les murs de l'école ce qu'ils appellent des feuilles foudres où les gamins se dénoncent les uns les autres. Et là, tout d'un coup, il faut trouver positif quelque chose qui à Paris apparaît comme négatif. Donc, je passe mon temps dans cette espèce de gymnastique étrange. Et un jour, ma mère me raconte que le parti mis bon ordre à une dérive qui était en train de se faire, dont les responsables étaient Ismaïl Kadaré et sa femme, qui voulaient faire rentrer Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en Albanie. Enfin, pas les faire venir en personne, mais en tout cas les traduire ou vulgariser leurs idées, l'existentialisme et tout. Résultat, on les envoie en rééducation à la campagne. Enfin,
faudrait... Ismaël Kadaré et sa femme.
Ismaël Kadaré et sa femme. Et je pense que c'est à la suite de ça. Bon, alors c'est des souvenirs d'enfant, hein, c'est un peu nébuleux. J'ai reconstitué à peu près cet enchaînement-là. Faudrait lui demander si ça s'est passé exactement comme ça. Mais en gros, moi je le rencontre, enfin ma mère surtout le rencontre et moi je la suis, dans un appartement qui ressemble à un HLM un peu crade, donc à Tirana, mais bon, qui là-bas doit être un bon appartement. Il a deux télévisions, ce qui me choque. Mais en tout cas, je rencontre cet homme dont je sais que il incarne justement autre chose que la ligne officielle du régime. Et bon, moi, je vois que ma mère, elle est du côté de la ligne officielle du régime, mais à l'intérieur de mon esprit de petit garçon, il y a quand même une petite musique il y a un petit truc un petit déclic qui se fait et qui me dit que c'est peut-être quand même lui qui a raison, même si on parle pas, lui regarde un match de boxe, moi j'aime pas la boxe, enfin il y a aucun rapport qui se crée entre nous, mais j'ai l'impression que effectivement ça introduit une espèce de distance entre le discours on va dire communiste orthodoxe, et c'est pas n'importe quel communisme orthodoxe, hein, l'Albanie c'est un peu comme une Corée du Nord en Europe, aujourd'hui on a oublié ce que c'était, donc il y a une sorte de distance voilà, cette figure de Kadaré, et plus tard d'ailleurs une des premières choses quand je vais commencer à me distancier en grandissant beaucoup plus consciemment, on va dire, du discours de ma mère, ce que je ferais c'est de lire Ismaël Kadaré et de découvrir dans ses livres, pour le coup, la réalité albanaise qu'on me cachait quand j'étais là-bas.
Et alors justement, si à partir, parce que je choisis ce point d'ancrage-là, on aurait pu en prendre d'autres, parce qu'il y a beaucoup de points de basculement justement dans votre progressive possibilité de vous appartenir. C'est parce qu'il me semble qu'on peut, à partir de cette rencontre avec Kadaré, élever les choses à quelque chose d'un peu plus universel ou général, c'est-à-dire le droit de dévier de la ligne majoritaire, le droit de s'inventer autre part que dans la grande route tracée. Est-ce que c'est quelque chose dont vous diriez que le livre retrace l'histoire, en fait, de conquérir ce droit-là?
Oui, effectivement, oui, c'est on peut dire que c'est ce que raconte le livre l'Albanie. C'est intéressant parce que la plupart des gens, bah, connaissant un petit peu mon histoire, etc., imaginent que le plus important c'est la Mauritanie, et effectivement ça joue un rôle très important, fondamental dans ma vie et dans mon être de manière beaucoup plus intime que l'Albanie. Mais du point de vue du cheminement intellectuel et disons de l'accès à une conscience, à ce qui sera plus tard ma conscience d'adulte, l'Albanie joue un rôle réellement fondamental aussi, parce que bon, on n'aura pas le temps de raconter tous les détails, mais je me retrouve réellement à un moment face à des gens qui sont des dirigeants du parti, dont un couple dont l'homme est le responsable, je l'apprendrai plus tard, des purges. Donc vraiment comme Beria pour Staline, quoi. Et d'ailleurs il a fini par être tué plus tard, sans doute empoisonné par Enver Hoxha, par le dictateur communiste albanais. Donc après je me rendrai compte que finalement c'est comme si j'étais allé d'une certaine manière en enfer, et il y a un côté un peu Orphée dans cette histoire et que j'en étais ressorti, parce que
Une sorte de passage un peu initiatique, quoi.
Un passage initiatique, mais dont évidemment je ne pouvais pas du tout être conscient à l'époque. Donc c'est quelque chose qui m'a complètement marqué. Et ce que je raconte aussi, c'est qu'après, quand je lirais Orwell 1984, pour moi c'était réel. Je voyais pas ça comme de la science-fiction, enfin je savais que c'était une dystopie et tout ça, mais en même temps il y avait quelque chose qui me parlait complètement, ce qui fait que des fois d'ailleurs quand on me demandait pourquoi j'aimais ce livre, j'étais incapable de l'expliquer. Ça faisait partie de moi, cette réalité totalitaire, totalement effrayante.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
And now, the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not the queer, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway, and that much more than this, I did it my way.
Had a few, I
Et une reprise de plus, mais pas n'importe laquelle, My Way, reprise par Sid Vicious. On aurait pu vous passer du Patti Smith ou d'autres représentants de cette vague musicale qui vous fait du bien parce que vous vous dites, Karine Misquet, à l'époque, en pleine adolescence, que c'est la musique des parias. On a commencé cet entretien par parler de la figure du bâtard au Moyen-Âge et donc vraiment votre identité est composite et plurielle parce qu'on arrive à cette musique punk qui vous aide à comprendre quoi à ce moment-là ? Ou peut-être à être où ?
À être en tout cas ailleurs que mes parents. Ça, je pense que de toute façon, bon, depuis au moins depuis l'invention du rock and roll, donc déjà la génération d'avant le rock et après le punk, ça a réellement servi à ça, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement inacceptable pour les adultes de l'époque. Donc du coup, ça m'aide à être à un endroit qui m'appartient à moi, qui effectivement est un refus catégorique. D'à peu près tout, et notamment de toutes les idéologies aussi. Je pense qu'à l'époque, il y a une chose, c'est marrant. Enfin bon, il y a toujours des tribus hein, dans les écoles, dans les collèges surtout. Bon, après, j'ai eu des enfants. Maintenant, j'ai un peu perdu des fois le compte des tribus d'aujourd'hui, mais enfin en tout cas à l'époque il y en a notamment trois qui sont les rockers. Il y avait encore des nostalgies du rock des années 50-60, les baba cool, donc ce qui venait après les hippies et les punks. Et moi, bon, en gros, je pense que les rockers, ils étaient trop blancs pour moi. Je l'aurais pas dit comme ça à l'époque, mais il y avait un truc un peu, de toute façon j'aurais pas pu me retrouver là-dedans, et puis bon, c'était un peu trop passé. Et les baba cool, ils m'énervaient, je les trouvais trop gentils en fait, et le monde était pas gentil. Et donc les punks ils correspondait pour moi réellement à l'énergie aussi de l'époque, à la réalité, bon, en anticipant peut-être un peu comme plus tard, enfin ça va d'ailleurs à peu près avec, parce que je découvre le punk, je pense, juste après avoir découvert le roman policier. Et finalement, les deux jouent un peu le même rôle, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas acceptable, c'est sale, ça plaît pas, ni aux adultes, ni, disons, à l'univers majoritaire ou bien pensant. Donc c'est une manière d'emmerder le monde, quoi.
Et ce sont aussi deux endroits où il y a de la violence, mais de la violence transformée, c'est-à-dire que ce soit dans cette musique là ou que ce soit dans les romans policiers, c'est la violence qui n'est plus la violence autoritaire en Albanie, qui n'est pas la violence d'une forme de révolution en Mauritanie, qui n'est pas celle de la guerre d'Algérie après laquelle vous naissez. C'est peut-être aussi un endroit possible pour exister avec cette violence sans être prise directe avec elle, en fait.
Oui, effectivement, parce que c'est une manière de ne pas la nier. Et que je pense que le pire qu'on puisse faire avec la violence, c'est de faire comme si elle n'existait pas, de ne pas la voir, ou bien d'imaginer un monde où elle n'existerait plus, ce qui est extrêmement dangereux, ce qui est un peu ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, parce que malgré tout, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Et c'est vrai que là, ce sont des expressions, disons que ce soit littéraires ou musicales, qui font quelque chose de cette violence. Alors évidemment, il peut y avoir une part autodestructrice ou réelle. Bon, My Way, là c'était la version de Sid Vicious. Sid Vicious a poignardé sa petite copine.
Et puis il meurt à 21 ans d'une overdose.
Il meurt à 21 ans
d'héroïne.
Voilà, mais bon, c'était extrêmement violent. Il a poignardé dans le bas-ventre. Enfin, un truc vraiment bien, bien trash, quoi. Donc, et puis bon, après, voilà, c'est aussi toute cette époque, hein, des drogues dures et qui font quand même, qui font quand même vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, il y a aussi une part autodestructrice là-dedans. De toute façon, on s'en débarrasse jamais complètement de la violence. Mais au moins là, elle est explicite, elle est là, elle est présente et on sait de quoi on parle.
Et est-ce qu'elle permet pour vous, encore dans ce parcours d'invention de ces identités qui vous composent, peut-être de commencer d'en finir un peu avec des identités qui vous étaient proposées par la famille de votre mère ou votre père? Ça commence à pouvoir être l'identité de Karine Misquet lui-même, par la musique et la littérature?
Oui, certainement. Je pense que ça a toujours été, ça a été assez tôt le cas, que ce soit ce que je lisais ou ce que j'écoutais, de toute façon, ça autour de moi, enfin en tout cas dans ma famille, ça plaisait clairement pas. Donc du coup, c'était
ça
réellement à moi, et donc ça me permettait de construire ma propre sensibilité, mon propre rapport au monde. À partir du moment où je savais moi ce que j'aimais, ce que je savais aussi les sensations. que j'aimais éprouver, y compris dans des paradis artificiels. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui m'appartenait et dont je pouvais faire quelque chose. Et c'était effectivement une manière d'échapper aux différents cadres dans lesquels on pouvait vouloir me faire rentrer, oui.
J'ai écrit sans rien dire à personne. Puis je le leur ai fait lire 15 jours avant publication. Pour ma mère, c'était simple. Je venais de les assassiner, mon père et elle. 17 ans après leur divorce, elle continuait à penser, à parler pour eux deux. Naturellement. Elle me dit de son air le plus sérieux, celui du jazz ou la révolution, avant d'ajouter, c'était son côté candide, « Tu me fais passer pour une girouette, toujours à la recherche d'un nouvel engouement politique. » Quant à mon père, il réagit en mode mineur, se contentant de préciser, en me montrant du doigt un passage où je me définissais comme libre penseur, que tout le reste pouvait passer sauf ça, auprès de la famille et du pays tout entier. Tabou ultime de l'athéisme. Je me souviens alors de ce parent plus âgé, qui avait fait le plus grand effort de me dire de me convertir au christianisme s'il le fallait, mais de ne pas rester sans religion. Cela m'avait peiné qu'il en arrive là. Que son souci de mon salut, son inquiétude de me voir flotter dans les limbes de la non-appartenance, aille jusqu'à lui faire prononcer des paroles aussi douloureuses. Car il y a de la douleur à voir l'autre ne pas entrer dans le cadre commun, celui qui permet de dire « il est de mon sang, de ma foi, de mon côté, on partage quelque chose de précieux et de particulier. » Il y a de la douleur à renoncer à ce qui nous unit. À voir cet autre, ce presque pareil, moi, refuser de s'allonger en définitive sur le lit de Procuste, à me voir me rebeller encore et encore contre cette affirmation « tu es un mort, tu n'es pas un Nazaréen, un Français ». À me voir dire encore et encore « mais ma mère est française, ça fait partie de moi, je ne peux pas m'amputer ». À me voir me défendre ma filiation maternelle, alors même que j'ai tant de comptes à régler avec elle. Mais cela, ils ne le savent pas. Et moi, pas encore, tant que ça. Pas avant d'avoir vu le film sur l'Albanie. Pas avant d'avoir lu Hannah Arendt.
On lit un extrait dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre. Romain de Bec-de-Lièvre lit un extrait, pour remettre la phrase dans le bon sens, pourquoi pas parler français, de S'appartenir. C'était à la fin de ce roman graphique. Et cette fois, c'est vous qui écrivez. On a dit tout à l'heure combien est-ce que la musique, la découverte d'une forme de littérature du roman noir, vous permet de petit à petit faire votre chemin. L'écriture, c'est encore un autre stade. Et quel stade, si on vous lit, c'est un stade qui vous amène à quoi ?
En fait, c'est un stade qui m'amène effectivement à moi-même. Bon, là, je fais allusion au premier texte littéraire que j'ai écrit, qui était pour Autrement, en 1997, qui s'appelait Nouakchott, Paris Nouakchott, dans un livre qui racontait en fait le retour au pays des origines. Bon, en l'occurrence, c'était le pays de mon père. Et le premier voyage que je faisais en Mauritanie à l'âge de 15 ans, qui était un voyage à la fois très fort, initiatique et un choc aussi, évidemment, parce que je découvrais un monde auquel on ne m'avait pas réellement préparé, mais aurait-on pu m'y préparer. Et donc, quand j'ai écrit ce texte, 18 ans après avoir fait ce voyage, donc j'avais 33 ans, je pense, quand je l'ai écrit, 32-33 ans, ça a été pour moi une manière d'accepter, finalement, de ne pas tenir compte de ce que pourraient penser mes parents, qui étaient quand même deux figures aussi, un peu, ben, comme souvent sont les parents, mais là, en plus, c'était des figures public, bon, surtout mon père, mais ma mère aussi, quand même. Et donc là, bah, c'était réellement m'affranchir, dire bon, moi, je suis cette personne qui écrit ça. Je suis cette personne qui a vécu ça. Après tout, je l'ai vécu, ça m'appartient, j'ai le droit de le raconter, j'ai le droit d'en parler, et j'ai le droit de dire ce que ça m'a fait et comment j'ai vu ce monde et comment je vois le monde à partir de cette expérience qui m'est propre. Donc, ça a été une transgression qui a été le début vraiment d'une nouvelle étape de mon existence.
Et j'ai trouvé très beau que ces deux textes se terminent une fois passé par quand même tous ces remous identitaires, parce qu'on n'a pas été dans les recoins de chacun, mais ils sont très nombreux et ils nous emmènent vraiment dans tout ce que finalement le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle a connu de très chahuté. Ce texte se termine en disant, mais en fait la vraie question c'est de savoir si j'étais un garçon. C'est comme si vous aviez fait tout ce bazar, pour ne pas dire bordel, pour arriver à une question peut-être encore plus essentielle, qui était la question de l'identité sexuelle ou l'identité de genre. Est-ce que ça a été une surprise en écrivant le texte d'en arriver là ? Est-ce que ça a été une surprise en tant que lectrice d'en arriver là ?
Oui, ça a été une surprise, effectivement. Et en même temps, ça c'est le moment où j'ai commencé à l'écrire, ça s'est vraiment posé comme une évidence. Où je raconte deux trois souvenirs d'enfance autour de cette question de l'identité, de comment on vous assigne à cette place de garçon, c'est-à-dire à une place de dominant dans la société, bon notamment par la grammaire. Donc je raconte que j'arrivais pas à comprendre le sens en fait de cette règle qui veut que le masculin l'emporte sur le féminin pour une raison très précise, c'est que à l'époque j'étais en CP, j'étais dans une école privée une seule année en CP, donc c'est la seule année où j'étais dans une classe mixte, parce que je suis de la dernière génération des écoles de garçons, et en fait il y avait deux filles qui me martyrisaient, enfin qui m'avaient pris comme tête de turc, on pourrait dire, et donc je savais bien que moi déjà tout seul garçon contre deux filles, j'arrivais pas à être plus fort, donc je comprenais pas. Et le dessin dans le livre de lecture était un dessin où on voyait un garçon qui l'emportait contre cinq filles, et donc j'arrivais pas à y croire, ça me paraissait une arnaque totale cette histoire. Et puis ensuite voilà une histoire que je raconte où on était à la piscine et il y avait un garçon de ma classe qui a décidé qu'il fallait aller attaquer les filles, et moi je ne comprenais pas le concept, il y avait un truc qui m'échappait là-dedans, mais du coup c'était troublant dans ce genre de situation, aussi parce que j'avais pas spécialement les mêmes goûts que les autres, le foot ou des trucs comme ça. C'était troublant parce que je me demandais, pas aussi consciemment que ça sans doute à l'époque, mais il y avait forcément un peu ce trouble de est-ce que je suis vraiment un garçon puisque j'arrive pas à aimer ou à trouver naturel ce que les autres trouvent naturel, y compris pour rejoindre un débat très actuel, la violence contre les femmes.
Mais c'est assez en même temps très actuel et en même temps, je sais pas, on pourrait dire tellement essentiel que d'une question identitaire adressée par le politique, par l'histoire, par la sphère publique, vous arriviez à une question identitaire qui peut être tout à fait publique, politique et adressée par l'histoire, mais qui en l'occurrence vous concerne intimement. Quand vous avez dit que c'était une surprise, qu'est-ce que ça vous a dit de réaliser que vous étiez en train de terminer ce livre en parlant de ça ?
Qu'est-ce que ça m'a dit ? Waouh ! En fin d'émission, c'est pas une question simple. Il va falloir que j'y réfléchisse encore, mais je pense que ça m'a confronté sans doute à quelque chose qui était encore de l'ordre d'une limite aussi pour moi, parce que je pense que c'est la question effectivement la plus intime et la plus taboue, et c'est celle sur laquelle repose tout le reste, en fait. C'est celle sur laquelle repose tout le reste des discriminations et l'essentiel de l'ordre social. Je veux dire, la domination masculine, je pense que ça reste la question centrale de quasiment toutes les sociétés sur la Terre aujourd'hui. C'est ce qu'elles ont en commun, finalement. Et c'est à partir de cette violence fondatrice-là qu'on trouve la source, ensuite, des autres violences. Donc finalement, je me suis dit que, tiens, il m'avait fallu du chemin pour en arriver à cette vérité première.
France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
14h48 sur France Culture, à cette heure-ci, on demande à quelqu'un de nous raconter des histoires, plusieurs histoires, et si possible en lien proche avec le chantier thématique de la semaine. Le chantier thématique de la semaine, c'est l'identité. On a toqué à la porte des généalogistes successorales, par exemple à la porte du cabinet Andrivaux, et c'est Isabelle Lemignon qui nous a répondu.
J'ai en mémoire un dossier dans lequel, qui nous a tous beaucoup marqués à l'étude, où il s'agissait de régler la succession d'une dame de 60 ans qui était célibataire sans enfant. Donc on établit les premières recherches en recherchant qui est son père. Sa mère, on se rend compte qu'elle est le fruit d'une liaison illégitime entre une très jeune femme et un homme marié. On déduit des indications qui sont portées sur notre tableau et des recherches qu'on va effectuer dans les fonds dans lesquels on travaille, qu'elle a manifestement été abandonnée par sa mère. Et on réalise aussi que cette mère est toujours vivante et que, en l'absence de disposition testamentaire, l'héritière de cette fille est donc sa mère. Il s'agit donc de la retrouver, de la contacter. On constate qu'elle s'est mariée entre-temps, qu'après cette première naissance d'enfant naturel, elle s'est mariée, il y a eu deux autres enfants dans les liens du mariage. Et naturellement, toutes ces informations qu'on va trouver dans l'état civil ne nous racontent pas la réalité des faits. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle a parlé à son époux de cette première enfant, parlé à ses enfants. Donc, il s'agit là d'être extrêmement prudent, d'essayer de faire preuve d'un petit peu de tact, puisqu'on n'est pas non plus là, le généalogie successorale, pour faire exploser des familles, pour bouleverser les équilibres qui sont en place. Donc mon collègue à l'époque s'était très prudemment rendu au domicile de la mère, donc de la défunte, une dame qui avait environ 80 ans, parce qu'on ne pouvait naturellement pas lui envoyer un recommandé ou lui passer un coup de fil au risque de tomber sur son époux, puisqu'on ne savait pas si son époux était au courant de cette situation. Et là, en l'occurrence, il avait longuement attendu qu'elle descende seule vers une petite maison au fond d'un grand jardin. Donc elle était descendue vers son potager et il lui avait fait signe. Il s'était donc retrouvé à la grille de cette petite maison en province à devoir aborder des sujets si lourds. Et étonnamment, on avait senti chez cette femme une sorte de soulagement en découvrant que cette histoire qu'elle avait enfouie depuis de longues années, certes, ressurgissait un petit peu à l'improviste. Mon collègue, très naturellement, lui a dit « Écoutez, on va régler les choses le plus discrètement possible. Je m'en vais, ne vous inquiétez pas, on trouvera des solutions pour que ça reste. Voilà, on va respecter votre histoire. » Et assez étonnamment, elle lui a dit « Non, restez. Ce fardeau était trop lourd à porter toutes ces années. C'est l'occasion aujourd'hui de dire la vérité à mon mari qui n'est pas au courant. » Donc elle lui a proposé de venir pour l'aider, lui a-t-elle demandé. Et donc mon collègue s'est retrouvé assis dans cette petite maison face à un couple d'octogénaires et surtout face à un silence assourdissant parce que manifestement les mots étaient trop durs à prononcer pour cette dame. Les seuls qu'elle a réussi à prononcer ont été « ce monsieur a quelque chose à te dire ». Donc il n'a eu alors d'autre choix que d'annoncer à ce monsieur que sa femme avait eu un passé dont il ignorait tous les détails. Donc c'est toujours particulier parce qu'on fait du règlement de succession, on a des formations de juristes ou d'historiens, on applique les règles de dévolution légale, on n'a pas de formation de psychologue, mais on est toujours naturellement attentif à la réaction des gens qu'on a en face de nous. Et là, en l'occurrence, ce monsieur semblait évidemment un petit peu ému. Et quand mon collègue lui a demandé si tout allait bien, il s'est naturellement, comme on le voit souvent, caché derrière une explication de façade en disant « tout va bien, il n'y a aucun problème », alors que de toute façon, déjà, son corps trahissait une émotion qui était évidente et tout à fait naturelle. Donc on y va toujours à tâtons, très doucement, et en fonction de l'écoute qu'on a en face de nous, de la demande qu'on a, on va fournir les détails. Alors qu'on n'a pas toujours, parce que nous, l'identité de la personne, elle tient dans l'ensemble des informations qui nous sont transmises par le notaire, par l'acte d'état civil. Donc parfois, on a des questions très, très, très intéressantes auxquelles on ne peut pas répondre, mais que faisait, qu'a fait ma fille, quelle était sa profession, est-ce qu'elle était heureuse, de quoi est-elle morte, toutes questions qui sont tellement légitimes et auxquelles malheureusement, en tant que professionnel mandaté par un notaire, on est tout à fait incapable de répondre. Weighted down by possessions, weighted down by the gun, weighted down by the river for you to come. And who sucks? Were you darling? Oh, darling, while I was away, away too long. I went away to see an old friend of mine. His sister came over and she was out of her mind. She said, Jesus has a twin who don't know nothing about sin. She was half crazy, out of her mind. Weighted down by possessions, weighted down with a gun, weighted down by the river for you to come. Her light eyes
as we're dancing. She is insane. Her brother says she's just a bitch on a golden chain. She keeps coming closer, saying I can feel it in my bones. Schizophrenia is taking me home. Weighted down by possessions, I'm weighted down with my gun. I'm weighted down by the river for you to come.
Et c'est la guitare de Cat Power, Schizophrenia's Weighted Me Down, le long titre d'une perle assez rare de cette chanteuse. Karim Misquet, vous avez eu l'occasion, à travers les documentaires juifs musulmans si loin, si proches, mais aussi à travers la publication, peut-être de n'appartenir, d'observer les réactions et d'observer la manière dont chacun s'accroche ou non à son identité, chacun répond de manière différente à cette injonction d'appartenir, réaction aussi hétérogène que les identités le sont.
Oui, ça a été surtout frappant sur juifs et musulmans si loin si proches, où effectivement il y avait... Mais ce qui est assez intéressant, c'est que... Parce que j'avais suivi notamment sur Twitter le moment où il y a eu la première diffusion sur Arte, et beaucoup de gens qui tweetaient étaient de l'un ou l'autre groupe, on va dire, au sens large. Et la plupart des gens s'y retrouvaient, étaient contents d'apprendre des choses. Et puis après, bon, à la marge, il y avait ceux qui étaient, on va dire, extrémistes d'un côté ou de l'autre, qui soulignaient en positif ou en négatif ce qui les arrangeait.
D'un point de vue historique,
ouais. Et ça, c'était vraiment très, 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 très frappant, comment chacun faisait son marché à sa manière. Mais il y avait quand même une grande majorité des gens qui étaient vraiment de bonne foi et de bonne volonté, et demandaient juste à apprendre et à comprendre. Voilà, ce qui rendait sur le coup plutôt optimiste. Je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Après, il y a beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs de l'identité et qui eux savent très bien manipuler ce genre de sentiment.
Ça veut dire quoi, des entrepreneurs de l'identité?
Bah, c'est leur business, quoi. C'est-à-dire qu'ils en tirent du pouvoir et ou de l'argent. Mais d'abord du pouvoir. Le fait de savoir maîtriser ces injonctions identitaires, de dire aux gens, vous êtes de tel côté, vous devez y rester, vous devez croire ci, vous devez faire ça. Et bah, évidemment, ça donne un grand pouvoir, ça donne un grand pouvoir sur les autres. Et il suffit d'avoir un peu plus de connaissances, de savoir parler, de, vous avez ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup la figure du pasteur dans La Nuit du Chasseur. Bon, là, c'est une identité religieuse totalement pervertie. Voilà, il y a pas mal de personnages comme ça à travers la littérature et le cinéma. Les gens qui, ils ont l'autorité derrière eux, que ce soit d'une religion, voilà, d'une identité, d'une culture, et ils savent l'utiliser, la manipuler pour faire des choses aux autres.
Alors, avec les images ou avec les dessins d'Antoine Silvestri, ça s'appelle « S'appartenir » et c'est publié chez Viviane Ami. Sans les images, mais avec des photos, une en tout cas, ça s'appelle « N'appartenir » et c'est aussi publié chez Viviane Ami. Et quant aux quatre documentaires dont on a parlé, « Juifs, musulmans, si loin, si proches », on peut les voir où?
On peut les voir en VOD, sur Arte, où le DVD est en vente un peu partout. Et voilà, il est assez facile à trouver.
Merci beaucoup, Karim Misquet.
Merci.
Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut continuer d'échanger, par exemple sur Twitter, sur Facebook ou franceculture.fr, où le podcast et la réécoute sont en ligne. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi, et à Véronique Villa qui la réalise. Aujourd'hui aux manettes, c'était Alexandre Dang. Dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange. Moi, je vous retrouve demain. Belle journée à tous.